vous avez de la chance. Hein. Et les petites poulettes, elles ont bien pondu. Hein.
Habiter sur une île, ça c'est le rêve.
Hein. CO2, mon amour.
Il y a le bon air, hein, ça là. Mais vous vivez comme ça toute l'année.
Je ne comprends pas l'énoncé de la question, là.
Bah, non, vous ne travaillez pas.
Ah, certainement pas, parce que le travail, pour moi, c'est la dégradation de l'homme libre.
Avec Denis Chessoux.
Oui, enfin, il faut bien un peu d'argent pour vivre, quand même.
Je suis pour l'abolition de l'argent.
Et le chauffage, l'électricité, il faut bien la payer.
Ben, je suis directement branché au poteau de l'EDF. Ça évite les factures. Et l'hiver, ben, je me chauffe au vin. Voilà.
Sur France Inter.
Et même l'été, d'ailleurs.
Eh ben, c'est une solution, on en fait ce que l'on veut. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début d'année. On vous souhaite évidemment la meilleure année possible avec tous les trois petits points que l'on peut mettre derrière. Et c'est en tout cas CO2 Mon Amour, l'émission qui fait chuchoter la nature à vos oreilles. Avec Patrick Henry aujourd'hui à la technique et assisté de Thomas Lehété, c'est Fred Milano qui réalise l'émission. Alors, près de la boîte de 200 masques chirurgicaux, normes européennes EN 14683, filtration de type 2, au pied du sapin enguirlandais agréé par l'Association française du sapin naturel, autorisé à la vente par décret 2020-1409 du 18 novembre, sous les portraits du professeur Salomon et d'Olivier Véran, les rois mages, cette année, se posaient des questions avant d'arriver dans la crèche le 6 janvier pour l'épiphanie. Alors, comme d'habitude, Balthazar apportera l'ami, originaire de la Corne d'Afrique, résine aux bienfaits multiples, excellente antiseptique. Gaspard portera l'encens, symbole de divinité aux vertus apaisantes, si 100% naturel, hein, parce que sinon ça peut aussi vous polluer les voies respiratoires aussi sûrement qu'un diesel. Melchior portera l'or aujourd'hui détourné du symbole de royauté. Mais la visite cette année devenait complexe. Gaspard, Melchior et Balthazar par pied en règle, ça fait déjà trois. Plus l'âne et le bœuf avec un certificat de non-contamination et obligation de ne pas souffler trop fort, ça nous fait 5. Plus, bien sûr, Jésus, Marie, Joseph appartenant à la même famille, ça fait 8. Les bergers pistachiers rémouleurs de plus de 65 ans resteront à l'écart. Et Pilate, gel hydroalcoolique dans son sac, nous expliquera comment se laver les mains. Alors, heureusement, Covid ou non, dans la boîte à gants, la caravane à bois et le Dakar passent. Alors, on fera attention au distanciel avec les dromadaires. Donnez-nous notre dose de pétrole quotidienne. Le veau d'or et le Dakar dans les dunes d'Arabie Saoudite, ça, c'est de l'essentiel. Chez nous, fin décembre, un lynx jurassien a terminé l'année en se jetant sur la balle d'un braconnier qui lui a éclaté le thorax. Sûrement pour apprendre à ce lynx à ne pas sortir après 20h, hein ? Couvre-feu, sauf pour la chasse, rien de nouveau, on est en France. Les choses vont bien mieux pour les baleines à bosse, et tant mieux. À travers le monde, les initiatives se multiplient aussi pour nettoyer les rivières, les rivages. On ne jette plus ses déchets dans les amphores de Pompéi. On plante des arbres au Machu Picchu. On recycle les bouteilles de bière et d'oxygène sur les sentiers de l'Everest. On demande à la banquise d'attendre un peu, encore un peu, pour fondre afin de pouvoir instagrammer la photo. Et puis on biaffine aussi les koalas en Australie. Et ici, tout se passe bien. Hein. D'ici 2 mois, de tendres feuilles vertes vont éclore. La fauvelle viendra claironner au jardin. On tressera les vieux masques pour s'en faire des hamacs sous les ombrages. Et on pourra s'embrasser dans les bois sans risquer un prélèvement massif. Alors 2020, non. Non, si on sait reprendre la main du vivant, de la nature qui est notre grande mutuelle, notre assurance vie. Alors pour tenter de se faire une omelette de plaisir sans casser les vœux, la nature, ayant donné une très légère leçon à nos sociétés qui ne jurent que par la technique, nous pourrions éventuellement essayer l'humilité. Là, bon, je vous l'accorde, cette marchandise n'est pas encore très tendance, car comme le dit Edgar Morin, trop de gens confondent ce qui compte avec ce qui se compte. Formuler des vœux étant devenu un exercice compliqué, je vous souhaite tout simplement le meilleur et vous remplirez les cases de l'attestation de bons vœux avec de la chaleur humaine dont il faut jamais se protéger. Au menu, donc je vous le disais, une ronde, une valse de vœux à 3 temps, alors naturaliste, philosophique et hivernaux dans ces hauts de mon amour. À la fin de l'émission, on retrouvera Jean-Marie Pelt, disparu pendant l'hiver 2015, qui nous racontera cette saison depuis son jardin lorrain. La philosophe Cynthia Fleury. Et on va débuter par un moment de félicité ambigore dans les Hautes-Pyrénées. Alors vous savez, c'est ce moment où les étoiles sortent de leurs étuis, où l'interrupteur de la galaxie se met en marche, où on ne peut pas agir sur cet écran fleurit du plus grand que nous. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude avec Christian Rangeval. Christian Rangeval est connaisseur de la nature pyrénéenne, chaleur humaine. C'était il y a quelques jours et d'ailleurs le froid n'avait pas encore daigné bouger. Ah, je vais rejoindre un homme de la nature, quelqu'un qui a très bien connu ce parc national des Pyrénées et qui est déjà là installé. Je me rejoins un peu. Et voilà. Bonsoir Christian Rangeval.
Bonsoir Denis.
Christian, là, je vous vois en train de regarder donc cette vallée. On n'est pas loin du Caballeros.
Ah ouais, on a le Caballeros en face, là, oui.
C'est donc une montagne, on va dire, un peu tutélaire ici, dans cette Bigorre, dans ce Lavedan pour être précis. Alors on s'est posé là, sur ce passage d'année, j'allais dire. Et alors ce ciel, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que l'on peut voir et qu'est-ce que...
Ce ciel, ce qui est chouette, c'est que depuis quelque temps en Haute-Pyrénées, tu sais, les villages ont pris la décision de mettre des éclairages beaucoup plus discrets. Ouais. Et même dans ma commune, là, sur la vallée voisine de Bat-sur-Guer, le conseil municipal actuel a décidé carrément d'éteindre les lumières de minuit à 5h du mat. Mais j'ai téléphoné à mon fils, où je l'ai vu sur Skype le dimanche après, il était aux anges, il m'a dit, il est astrophysicien, m'a dit, mais c'est merveilleux, je vais pouvoir étudier comme les étoiles comme je faisais quand je m'échappais derrière la maison, à l'époque où il n'y avait pas tous ces éclairages, quoi. Et là, c'est un peu pareil, tu vois, il y a des progrès, quoi. Alors que quand tu as un éclairage violent, tu vois pas la moitié du ciel, quoi.
Alors Christian Rangeval, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la nature et pour les hommes?
On peut espérer, bien sûr, que tout ça s'arrête et qu'on puisse repartir en montagne. Moi, j'ai maintenant un but, c'est d'aller voir les fameux bouquetins que je n'ai pas encore vus. Oui. J'ai assisté à tous les lâchers médiatiques, mais j'ai pas vu les fameux bouquetins.
On va rappeler une chose, c'est que le bouquetin, il a vécu dans les Pyrénées.
Ah oui, il a été totalement disparu par la chasse, à cause de la chasse.
Voilà. Oui. Et donc, réintroduction.
Réintroduction, ouais, grâce à un collègue là, qui a été... très bon, parce que pendant une trentaine d'années, il a fait toutes les réserves espagnoles. Et après, il avait ça dans la tête, la réintroduction, et il a réussi, c'est Jean-Paul Krampe. Il vient de faire d'ailleurs un très joli bouquin en expliquant. Il fait le suivi même de ces animaux lâchés, comme si c'était le berger des bouquetins, quoi. Alors, il a toute l'historique des mamans qui ont été lâchées, il y a déjà deux générations, et ça a l'air bien parti, quoi. Souhaitons que ça tienne, quoi.
Alors, qu'est-ce qui se passe, on va dire, la nuit, là, en ce moment?
Écoute, on entend déjà une hulotte.
La hulotte, ça y est, elle est là. Et alors, un peu plus loin, ça on ne va pas les voir, évidemment, il y a les isards. Hein.
Donc, l'isard, il ne reste
sont pas
même...
des chamois.
Il reste quand même l'emblème des Pyrénées. Et il se porte relativement bien maintenant, parce qu'avec les plans de chasse, on le voit hors des réserves et hors du parc. Ça aussi, ça fait plaisir.
Alors, c'est quoi la vie de l'isard?
Ah, l'isard, lui, son pays, c'est... c'est la haute montagne. Alors, ce qui est surprenant, par contre, il est moins alpiniste quelque part que le bouquetin, pourtant qui est beaucoup plus lourd. Ouais. Mais après, l'isard reste l'isard, c'est-à-dire, il ne se laissera jamais approcher aussi facilement qu'un bouquetin, tu vois. Ouais. C'est un peu curieux, le bouquetin, ce qu'il a desservi, dans le fond, c'est le fait qu'il était trop confiant avec les hommes. Dès qu'il y a eu des armes à feu, il n'y aurait pas eu les rois d'Italie et les rois d'Espagne, il aurait disparu, le bouquetin, totalement, quoi. Hein. Ouais. Donc, c'est un peu les chasseurs qui l'ont sauvé quelque part. C'est ces rois qui chassaient, qui à un moment donné, des bons conseillers leur ont dit « Bon, maintenant, il faut faire des réserves. » C'est comme ça qu'est né le Grand Paradis, c'est comme ça que sont nées les réserves espagnoles, quoi.
Puis, il y a un autre animal, quand même, évidemment, qui est aussi emblème de ces Pyrénées, donc c'est l'ours. Alors, il est peut-être encore dehors, parce qu'il fait quand même encore assez doux. Et il faut vraiment du froid pour vraiment qu'il hiberne totalement. Et ces Pyrénées, quelque part, elles lui appartiennent aussi.
Oui, c'est sûr, quand on voit même la réclame qu'on faisait il y a quelques années, les Pyrénées frontières sauvages, franchement, on ne le voit pas sans l'ours. D'ailleurs, l'ours, il a existé dans les Alpes, particulièrement les derniers dans la Maurienne. Et tu vois, on n'en parle plus, et on ne parle pas de le réintroduire dans les Alpes. On l'a réintroduit là, bon, ça fait des polémiques énormes, mais n'empêche que c'est le symbole, c'est un des symboles des Pyrénées. Et moi, j'ai des souvenirs formidables d'avoir observé les derniers ours pyrénéens. Maintenant, ils sont lâchés, il y en a dans l'Ariège, il y en a ici. Bon, je pense que si on les laisse tranquilles, ils vont vraiment faire leur place et ils vont se répandre dans les différentes vallées. Après, le problème de la prédation, d'abord l'ours, franchement, c'est pas un prédateur, il est omnivore. Donc j'ai l'espoir qu'on puisse le maintenir, comme on va maintenir d'autres espèces, ou comme on parlait tout à l'heure du bouquetin, j'espère qu'il fera partie vraiment de l'emblème des Pyrénées. puis pour nous, quelque part, les Pyrénéens attachés à leur montagne, c'est une part de rêve. C'est vraiment une part de rêve.
Alors avant de se quitter, Christian, peut-être un dernier petit vœu, quoi.
Oui, tu vois, un vœu, on a en face le massif du Atacam que j'ai connu sans aucune remontée mécanique. Maintenant, il y a une piste de luge, il y a quelques remontées mécaniques. Je n'ai jamais renié cette époque. Je vais te dire pourquoi, parce que mon premier métier, c'était moniteur de ski. Donc j'ai vécu de ça. Puis après, j'ai eu la chance inouïe de me retrouver dans un parc national, au milieu de la nature. Maintenant, le changement climatique nous fait réfléchir à quelque chose. On perd l'enneigement. L'enneigement, il est de plus en plus élevé. Donc, est-ce que l'avenir de nos montagnes, c'est les stations de ski ? J'ai rien contre, mais c'est peut-être pas l'avenir, parce qu'on manquera de neige. Et d'ailleurs, les stations l'ont bien compris, tu vois, là, on va être confinés pour le ski alpin, on peut faire du ski de randonnée. Moi, j'ai connu le ski de randonnée avec mes parents, j'étais tout gamin en face, là, au Atacam. Les peaux de phoque, on les collait, après on avait du mal à glisser, c'était galère. Mais ça nous a appris à aimer ça. Et donc l'espoir que j'ai, c'est que... Mais ça commence d'ailleurs, que beaucoup de gens se mettent à faire le ski de randonnée, se retrouver en pleine nature, tout en gardant des précautions, parce qu'il est avéré que la pratique de la randonnée aussi, dans certains coins, ça a été un peu néfaste à certaines espèces, ou la raquette, ou même les promenades en raquette. Donc tout en restant prudent par rapport à des zones où les animaux doivent vivre tranquilles en hiver.
Et on va se quitter avec ce clin d'œil des étoiles que l'on va vous envoyer. Et puisque nous sommes dans les Pyrénées, que nous sommes donc dans cette Occitanie, question à Jean.
Et on se dit automatiquement à l'Ichat.
Dans ce département donc des Hautes-Pyrénées qui sait heureusement se diversifier. Alors autre clin d'œil, au-delà de celui des étoiles, à Marie-Laure Gomez et José Soares. Et puis merci à Christian Vingeval. Et puis vous dire aussi que dans cette émission en 2021, il y aura un sujet sur les ours et un autre qui arrivera un peu plus vite, au côté du mois de février je pense, sur le lynx.
Let's go.
C'était Laura Cahen qui était en cavale choisie par Thierry Dupin, notre programmateur. Alors, suite de cette ronde de vœux en trois temps, trois voix, trois présences, mais toutes reliées au vivant et à la nature. Donc, avant de retrouver la voix de Jean-Marie Pelt, deuxième temps avec Cynthia Fleury, qui est philosophe, psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, auteur d'un très joli succès chez Gallimard, Sigi la mer. Et donc, on va s'intéresser aussi à vos vœux. Bonjour Cynthia Fleury, parce que le mot effondrement, eh ben on l'a véritablement vécu cette année.
Bonjour Denis. Oui, je pense que c'est l'enseignement premier de 2020. C'est une expérience très incarnée de ce qu'on pourrait appeler la vulnérabilité systémique. On a vécu une grande faille systémique, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose à un endroit, et puis avec le temps et avec la spécificité de notre mondialisation, ce fait local est devenu global.
Le merveilleux effet papillon, quoi.
Voilà. Et donc, et surtout, pourquoi on l'a vécu hors théorie et de façon très incarnée dans nos corps? Parce que nous avons été confinés. Une très très grande partie de la planète, nous avons vécu du liberticide, de la raison d'exception, de l'incertitude maximale, donc des formes réelles et très banales, entre guillemets, très quotidiennes d'insécurisation. Et puis ça continue. Et puis pourquoi c'est une modélisation dite d'effondrement? Parce que nous pénétrons dans un territoire incertain. Nous comprenons que ce n'est pas simplement épisodique, ça n'a pas été fait comme ça, comme un apax, une fois pour toutes. Non, ça va être récurrent, ces failles systémiques vont revenir, et c'est ça en fait la modélisation de l'effondrement, c'est de comprendre qu'à chaque fois on touche des paliers, on ne sait pas tellement anticiper ces paliers, et ensuite il y a des effets d'emballement, il y a des effets de rétroaction, il y a des effets exponentiels, et on ne maîtrise plus, soudain coup on n'a plus la maîtrise de l'événement, on n'a plus la maîtrise non plus de la compréhension de l'événement.
Ce que vous dites d'ailleurs, on peut vraiment l'appliquer sur l'environnement, avec aussi donc ces rétroactions, les effets de seuil sur le réchauffement, quoi.
C'est exactement ça. Donc on a eu là, in concreto, ce que l'on raconte dans les livres sur la transition écologique depuis quand même pas mal d'années.
Oui, 3 siècles et demi, enfin non, il y a une trentaine d'années, quoi.
Donc exactement, depuis une trentaine d'années. Donc c'est drôle de voir comment, d'un côté, 30 ans d'état de l'art, et de l'autre côté, 8 mois, 9 mois d'expérience globale, de stop and go, de confinement, et peut-être... En tout cas, moi, c'est mes vœux. Peut-être que enfin, ces 9 mois vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ces 30 ans d'état de l'art des sciences humaines et sociales.
Parce qu'on peut philosopher autant qu'on veut, mais quand même, l'être humain, il avance en gros par claque quand il se prend un petit peu le mur dans la figure. C'est ça qui est parfois un peu désespérant, non ?
C'est un peu désespérant. C'est vrai que c'est un peu au pied du mur que l'on... Parfois, on se réinvente. On connaît tous la phrase d'Hölderlin, « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Maintenant, moi, je suis pas une grande... je ne défends pas souvent ces politiques du pire, ces politiques maximalistes. Mais il s'avère que souvent, malgré tout, elles sont opérationnelles. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas beaucoup de frottements, qu'il n'y aura pas beaucoup de volonté de ne pas se séparer des idéaux de performance du XXe siècle, puisque c'est ça, en gros. Il faut enfin entrer dans le nouveau millénium. En fait, nous ne sommes pas encore sortis de l'ancien millénium, je dirais, dans son réquisite de performance, dans sa vision du progrès. Il nous faut inventer une autre façon de vivre le progrès. On le sait, il faut qu'on lie beaucoup plus, qu'on articule beaucoup plus nos contrats sociaux et nos contrats naturels, pour voler la formule
de Michel Serres.
Et en même temps, c'est merveilleux, parce que ça peut être un agenda universel de réinvention de soi, déjà, parce que c'est un point important, et puis de réinvention de nos sociétés. Donc c'est ça, moi, mes vœux, ils se situent là, que 2021 soit porteur de cette dynamique de réconciliation avec la nature, mais aussi avec un contrat social conscient des limites biosphériques, et en plus avec un éthos, entre guillemets, une manière d'être des uns et des autres qui ne soit pas celle du renoncement.
C'est ça.
Puisque c'est, on n'a pas envie de pénétrer dans un monde où on aurait le sentiment de tout abandonner et soi-même et tous ses désirs. Non, on a envie de reconfigurer nos désirs. Et que 2021 soit enfin la naissance de ce vrai millénium, oui, ce serait mes vœux.
Et alors dans Sigil amer, vous avez donc convoqué les frustrations, les mécontentements, qu'ils soient personnels ou bien qu'ils soient collectifs, donc qui bouffent, on va dire, les gens et une société. Et en même temps, vous invitez donc Herman Melville en disant « larguer les amarres ». Donc il faut larguer ces frustrations, il faut larguer donc ces mécontentements. Je ne sais pas très bien comment on peut faire, quoi qu'il arrive, mais bon, voilà. En tout cas, il faut les larguer. De quoi il faut se séparer pour qu'on essaye d'arriver quand même à vivre dans un environnement qui sera plus sain, puisque c'est quand même la clé, c'est les fondations sur quoi on peut construire après.
Oui, alors c'est vrai que je convoque dans Sigil amer Melville et plus spécifiquement la figure d'Ismaël dans Moby Dick qui dit moi j'ai soif d'océan et puis je convoque derrière les hommes océans de Hugo pour rappeler que voilà, on comprend bien que c'est pas un problème de mer, c'est un problème de grand large, c'est un problème d'ouvert si on veut prendre aussi la notion de Rilke. Et oui, il faut se séparer, et sans doute se séparer de ce 20e, c'est-à-dire se séparer aussi de nos idéaux de croissance, en fait, assez restreints. Moi, je suis totalement pour la croissance. Quel merveilleux mot. Croître, c'est grandir, mais voilà, grandir, ce n'est peut-être pas exproprier, ce n'est peut-être pas être toujours dans un système de prédation, d'extraction.
Piétiner les biens communs que vous connaissez.
Exactement. Voilà, grandir, ça peut être au contraire configurer des commons, penser ensemble, reformuler nos solidarités, penser autrement nos politiques d'éducation, de soins. On a vu à quel point elles étaient centrales dans notre état social de droit. Donc, voilà, donc c'est toute une autre grammaire, entre guillemets, de la croissance qu'il nous faut inventer. Il faut se séparer de ces idéaux assez restreints, assez court-termistes aussi, de ce qu'on peut appeler la performance économique et comprendre que les ressources humaines, les ressources naturelles, les ressources culturelles, les ressources spirituelles, politiques, etc. sont absolument vitales, constituent nos biens vitaux et ce bien plus que ce que la marchandisation nous enseigne.
Alors aujourd'hui, nous savons qu'il y a un consensus, je veux dire par là qu'il n'y a pratiquement aucun homme politique, bon on va mettre Bolsonaro et Trump par exemple à côté, et puis sûrement quelques autres, mais tout le monde est d'accord sur les constats, tout le monde est d'accord sur les faits, et il y a ce merveilleux mot donc de conscientisation, ok, c'est fait, et en même temps, on a de la collapsologie, on a de l'effondrement, on a donc aussi donc le catastrophisme éclairé, et ça déjà depuis de très nombreuses années de Jean-Pierre Dupuis, qui remonte à la surface. Alors comment on peut l'interpréter ça ?
On peut l'interpréter encore une fois parce que ce n'est pas parce que le consensus théorique se fait, est déclaratif et communicationnel, qu'il se fait de façon émotionnelle et qu'il se fait de façon active, c'est-à-dire où tout d'un coup on va faire converger des nouvelles politiques. On a encore une fois des forces de résistance, sans parler du fait qu'on est aussi dans un monde de doute, de confusion, de saturation des fausses informations. Malgré tout, on a beau être conscient de cela, mais ça nous impacte. Ça nous impacte dans notre croyance, dans notre confiance dans un système commun. Chacun se replie en se disant « je vais être le passager clandestin » entre guillemets du système, je vais me protéger. Ou se replie dans une forme d'impuissance ou dans une forme de désinvestissement protecteur pour ne pas être déçu ou tout simplement pour ne pas tomber malade.
Peut-être aussi ne pas être capable de renier son qu'on a cru. Quoi.
Tout à fait. Donc, résultat, on se dit, je me mets de côté. Donc, c'est ça aussi, hein, ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il nous faut retrouver un chemin qui est celui du courage, qui est celui de l'engagement, qui est celui du savoir au sens de... voilà, de lutter contre ces fausses informations, de trouver sans doute des outils de régulation des réseaux sociaux qui aujourd'hui sont absolument déterminants. Il est hors de question de faire demain sans les réseaux sociaux parce que c'est absolument splendide aussi ce que l'on peut faire avec cet outil. Ils envahissent, ils constituent aujourd'hui notre espace public. Donc on a absolument besoin que cet espace public soit propose des protocoles de vérification des informations, etc. Parce que ça nous aide à construire un avis, une décision. Donc voilà, c'est un long chemin. 2021, pour tous ceux qui s'angoissaient sur le fait que éventuellement des choses n'allaient pas exister encore, que la fin de l'histoire était prononcée. Écoutez, la fin de l'histoire n'est pas prononcée, elle est absolument suractive demain.
Donc ça, c'est la bonne nouvelle.
Ça, la bonne nouvelle, c'est un commencement qui est devant nous.
On a une clairière à défricher, quoi.
On a un immense territoire. Nous pouvons faire commencement, nous pouvons faire événement, nous pouvons faire histoire. Faut-il encore se saisir de ce désir-là, et le premier palier et la première étape avant l'action.
Oui, donc vous n'êtes pas forcément dans la ligne de Sioran qui disait que, en gros, que l'être humain c'était un singe qui s'était loupé, quoi.
Alors, j'aime beaucoup Sioran, d'ailleurs j'en fais. Dans Sigil la mer, justement, je rappelle à quel point il est à la fois conscient des manquements humains et puis sa dérision, son style, sont absolument nécessaires pour justement faire face aussi à ces manquements. Après, voilà, je me méfie souvent de l'aspect régulateur des passions tristes ou même des sarcasmes. Je les comprends tout à fait individuellement, je les partage même. Collectivement, je pense qu'il faut faire un peu plus attention.
Cynthia Fleury, qu'est-ce que l'on peut souhaiter aussi à la nature qui a été là depuis un certain nombre d'années, uniquement le décor du loisir des gens, alors qu'en fait c'est la base, c'est notre substrat. On a un peu l'impression aussi que le réchauffement, au-delà d'avoir réchauffé les esprits, a caché un petit peu aussi toute une forêt absolument incroyable. Donc qu'est-ce que l'on peut souhaiter à cette nature ?
Oh, c'est une question difficile parce que moi, je n'ai pas une vision, entre guillemets, pas fictive de la nature, oui. Mais je défends malgré tout une nature anthropologisée, entre guillemets, puisque je ne sais pas sincèrement dans ce grand combat qui est mené aujourd'hui entre les humains et la nature, moi je n'ai aucun doute sur qui gagne, si vous voulez. Qui gagne, c'est entre guillemets ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire donc je reste un vrai défenseur du contrat social, mais d'un contrat social encore une fois qui a une base, qui est consciente de sa base réelle, à savoir les services écosystémiques de la nature. Et donc je suis dans une approche encore une fois de réconciliation avec cette nature et qui nous emmène vers autre chose que le monde d'artificialisation continue que nous avons connu ces dernières années, ou d'acidification des océans, ou que sais-je, c'est-à-dire vraiment une non-conscience du bien commun que représente cette nature.
Merci beaucoup, belle année, puis à très bientôt, Cynthia Fleury.
Belle année, cher Denis, et belle année, bien sûr, à tous les auditeurs.
Sigil la mer, vous le savez, donc c'est le dernier ouvrage de Cynthia Fleury. Bon, j'espère que vous allez bien, parce que cette ronde continue avec le troisième et dernier temps de cette ronde de vœux avec Jean-Marie Pelt. Évidemment, vous le connaissez, un homme des quatre saisons, disparu fin décembre 2015, donc une bonhomie, une silhouette, une finesse, un raconteur. Lui aussi aimait le cosmos, qu'il a peut-être rejoint, car une étoile porte son nom. Alors vous le savez, au nom de nos 30 ans d'amitié, moi je lise 2-3 fois par an « Quand cela a du sens ?» Ces mots pétris de chaleur humaine, juste se faire du bien en le réécoutant. Je vous rejoins Jean-Marie, vous nous faites la météo, il ne fait pas très très froid là dans votre jardin.
Ben non, il ne fait pas froid. Mais on a eu un hiver il y a 2 ans où les températures pendant plus de 4 mois ont oscillé entre moins 10 et plus 10. Et
voilà.
Sans jamais tomber plus bas ni monter plus haut. C'était un hiver très très curieux. Et celui-ci prend un petit peu cette allure-là aussi.
Ouais.
Parce qu'on est depuis un bon bout de temps entre ces deux extrêmes, le moins 10. On a eu moins 10 un jour ou deux. Et le plus 10, comme c'est le cas aujourd'hui.
Alors là, on a un très beau ciel d'hiver hein, face à cette forêt de Saint-Hubert qui vous est extrêmement chère, donc ici en Lorraine. Avec le vent, on l'entend, là, en train de se glisser. C'est bien parce que c'est un ciel en même temps qui est propre. Je veux dire qu'il a, il a un très joli bleu clair. Et puis, on a quand même ces nuages qui sont en train de passer au-dessus de nos têtes avec différentes couleurs de gris-blanc. Je sais que vous affectionnez bien aussi cette saison. Quoi. Vous ne repoussez pas l'hiver.
Ah non, pas du tout. Le ciel, là, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne. C'est le ciel qui se traîne après une perturbation et avant qu'il redevienne propre. C'est en quelque sorte le recyclage des nuages.
Oui, c'est ça. Pour que l'hiver se mette vraiment en marche, pour que les mécanismes soient bons pour la nature, il faut justement du coup de froid. Il ne faut pas se réjouir lorsqu'on a un hiver qui est trop chaud.
Ah non, mais non, parce qu'il y a le phénomène des dormances. Quand les feuilles sont tombées des arbres, les bourgeons sont déjà là.
Ouais.
Parce que les bourgeons, ils se forment à la fin de l'été et au début de l'automne, pour l'année suivante. Mais pour que les bourgeons éclosent bien et débourrent bien l'année suivante, il faut qu'ils aient une ration de froid.
Voilà.
C'est ce qu'on appelle la dormance des bourgeons. Et dans le sol, c'est la même chose. Les bulbes doivent avoir aussi une dose de froid pour avoir un démarrage rapide au printemps. Donc les plantes se sont adaptées dans nos climats à l'hiver.
Alors les mirabelles cette année, ça va donner quoi? Parce que la dernière fois que je suis passé, elles étaient déjà très très en avance, j'ai pas pu en avoir.
Oh, elles avaient 3 semaines d'avance.
Oui,
et alors c'est un phénomène tout à fait général, c'est encore beaucoup plus net pour les noix, parce que moi je ramassais toujours les noix à l'époque où je m'apprêtais à partir en fac, c'était la rentrée du 1er novembre. Les noix tombaient à la fin octobre. Cette année, elles ont tombé le 1er octobre.
Oui.
Toutes les noix étaient par terre le 1er octobre. Donc, il y a effectivement des modifications très, très importantes des cycles de la nature. Alors, notre jardin n'est pas arrosé. Il ne reçoit pas un milligramme de pesticides. Bon, des fois, les pommiers sont un petit peu riches en tavelure,
oui.
Mais on enlève la tavelure et on fait de la compote, et
oui.
C'est pas très très grave.
Nous sommes encore vivants, vous et moi.
Oui, et puis de temps en temps, ben, y a de temps en temps des mauvaises herbes qui vont dans les plates-bandes. Mmh. Alors, je trouve que c'est très touchant de voir ces mauvaises herbes qui viennent se rapprocher de moi, qui me font coucou aussi.
Oui.
Alors j'en enlève quelques-unes, 2-3 maximum, après je suis déjà fatigué.
Oui. Pour revenir donc à cet hiver, il y a aussi ce froid qui est extrêmement important pour tuer ce que l'on va appeler la vermine, les mauvaises bestioles, ce qui pourrait aussi attaquer, on va dire, les fleurs, les plantes le printemps suivant.
Oui, parce que ça c'est les cycles qui sont caractéristiques de la région tempérée. Beaucoup de petites espèces animales ont un cycle d'une saison. Mmh. Si on perturbe ces cycles-là, effectivement, la saison suivante, coucou, me voilà.
Ouais. Pendant qu'on parle, on voit ce ciel qui s'est encore complètement remodelé. Hein, d'autres, ça va vite. Hein.
Et les Chinois, dans le Yin, trouvaient que les nuages étaient féminins parce qu'ils étaient changeants. Comme la nature féminine et comme la lune qui change d'allure tous les mois. Et c'est de là qu'on a inventé le mot lunatique parce que ça change tout le temps.
Et ça vient de là.
Et ça vient de là.
Comment on pourrait dépeindre ce paysage juste avant de se quitter, Jean-Marie ?
Ben, je vais vous faire une image. Moi, je suis malheureusement, en raison d'une naissance qui fut laborieuse, assez claustrophobe. J'ai besoin de grands espaces.
Ouais.
Et ici, on a trouvé cette maison et qui est sur un petit col. On monte lentement en venant de Metz et on descend lentement en allant vers Thionville. Mmh. Et on est juste au point culminant. Donc on voit loin, partout autour. Et le fait de voir ces belles forêts de Saint-Hubert, où il y a d'ailleurs un vieux monastère cistercien, où il n'y a plus de moines, mais qu'on est en train de restaurer. Cette belle forêt de Saint-Hubert, je la découvre tous les matins quand j'ouvre mes volets, roulant naturellement. Oui, alors je vois au loin cette forêt. Et je ne vois pas de maison. Il n'y a pas de village, là. Ils sont cachés, ils sont en contrebas. Et alors on a ce paysage complètement dégagé qui pour moi est un bonheur absolu, parce que si je suis dans un appartement et que je vois un mur en face, c'est tout de suite la catastrophe.
Eh bien écoutez, c'était notre grande série Un peu de quotidien et un peu d'hiver avec Jean-Marie Pelt. Hein,
voilà.
Au revoir Jean-Marie.
Au revoir à tous.
Ce qui est formidable, c'est de temps en temps, en le réécoutant, vous avez des tas de sujets mais qui sont mais totalement intemporels. Moi, mon petit rêve, un jour, ce serait de créer une peltothèque, voyez, où je pourrais vous offrir 50, 60 sons parmi, je ne sais pas, les 400 à 450 que l'on avait tournés. Oh, on y arrivera bien un jour. Ça sent la fin, dites donc. Mais oui, en remerciant Patrick Henry, à qui d'ailleurs je souhaite le meilleur dans un mois. Ouais, absolument. On a beaucoup travaillé ensemble depuis des dizaines d'années. Merci à Thomas Lehété, notre assistant, à Fred Milano, qui a réalisé et colorié cette émission, à Thierry Dupin, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et puis, tenez, la semaine prochaine, je vais vous emmener, on va rencontrer Émilie Janin, qui est une éleveuse bio en Côte d'Or et qui se pose de bonnes questions sur la souffrance animale. Elle n'est pas folle, elle sait comment ça termine, hein, la vie des bêtes. Et donc, on parlera donc d'abattage à la ferme. Ça aussi, c'est intéressant. Je suis en train de monter, mais pas pour tout de suite, mais une émission sur les Ardennes. Et pour rien vous cacher, j'ai pratiquement sillonné toute la France, et pas encore les Ardennes. Et j'ai envie de trouver des sujets, si vous voulez, donc par rapport un peu à CO2. Donc, faisons comme Philippe Bertrand, balancez, dénoncez, n'hésitez pas, vous avez donc le mail de CO2 Mon Amour si vous voyez des personnages intéressants dans ce très très beau département donc, qui jouxte la Belgique. Ne vous gênez pas. Le Twitter, c'est Denis Chessou, on a seul bloc, et puis, les podcasts, hein, vous vous abonnez aux podcasts à la fois de CO2 Mon Amour et de la Tue du Mon Petit Loup, vous en avez l'habitude. Il ne me reste plus qu'à vous renouveler des vœux extrêmement sincères à vous et aux vôtres.